Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
On appliquera en 2022 le premier article d'une loi adoptée sous le gouvernement Landry en 2002, donc il y a 20 ans, qui visait à faire du français la langue de l'administration. Pour en parler, il y a au bout du fil Maxime Laporte. Bonjour.
Bonjour.
Président du mouvement Québec français, qui était aussi avocat. Et je pense que c'est un peu grâce à vous si ça se produit, là, cette application du premier article de cette loi. La loi, on l'appelait la loi 104 à l'époque.
Ben, disons que ça a été, pour ainsi dire, une sorte d'obsession salutaire de mon côté, mais n'eût été de la solidarité, notamment des partenaires pour un Québec français, qui est notre table syndicale qui réunit les principales forces nationales rassemblant les travailleurs et travailleuses du Québec. Il n'eût été bon de l'appui dans l'opinion publique et l'appui de tous les députés qui ont fini par se rallier, réveiller au fond sur cette question-là. Ben, on n'y serait jamais arrivé. Peut-être que ça tardait, comme on le voit.
Mais là, la langue de l'administration, moi je pensais que c'était le français d'une part. D'autre part, pourquoi ça a pris 20 ans? Puis c'est une loi qui a été adoptée sous le gouvernement Landry, comme j'ai dit. Qu'est-ce qui est arrivé exactement?
Bien, si on fait un petit historique, on se rend compte que cette histoire-là, oui, en ce qui a trait à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la loi 104, ça date d'il y a 20 ans, mais en fait, c'est une histoire qui date d'il y a plus de 40 ans, puisque dans la loi 101 initiale, telle qu'adoptée en 1977 sous le gouvernement de René Lévesque, eh bien, il était déjà prévu que l'administration publique québécoise doit communiquer seulement en français avec les entreprises, avec les personnes morales établies au Québec et aussi avec les autres gouvernements. Et en passant, le mot « administration », là, ici, ben, ça englobe le gouvernement du Québec, les ministères, les organismes gouvernementaux, municipaux, scolaires et aussi les établissements de santé et services sociaux. Et bon, quoi de plus normal, hein? Du moment qu'on fait du français la seule langue officielle de l'État, ben, il va de soi que ça se traduise concrètement dans les pratiques de l'État en question. Alors, encore une fois, loi 101 initiale, on prévoyait déjà, on avait réglé cette question. Donc, en principe, ça devrait être la fin de la discussion. Et alors là, Antoine, vous me direz, mais pourquoi c'est pas la fin de la discussion?
Alors ouais. Mais il y avait déjà un article dans la loi 101 qui proclamait ça.
Ah oui, oui, bien sûr, Camille Lorrain avait prévu ça à l'origine. Alors, aux surprises, en 1993, eh bien, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, sous l'impulsion de Claude Ryan, a tout bonnement annulé cette mesure. C'était dans le cadre de sa fameuse loi 86. Alors, autrement dit, le Parti libéral est venu littéralement abroger à ce moment-là le statut légal du français comme seule langue officielle des communications gouvernementales et a donc rouvert, si vous voulez, toute grande la porte à ce que j'appelle l'anglo-bilinguisation de l'appareil public québécois. Oui. Et j'aimerais faire une parenthèse ici pour bien souligner que ce que je dis, ben, ça n'a rien de tellement théorique, bien au contraire. Vous savez, ce phénomène d'anglicisation de notre propre administration publique, ben, c'est une réalité. C'est même une tendance qui va en s'accélérant. Hein? Le Conseil supérieur de la langue française a publié tout récemment une étude qui en témoigne de manière, je dirais, spectaculaire. C'est une étude qui montre, entre autres, que dans l'ensemble du Québec, et là je parle des communications écrites de nos fonctionnaires, eh bien, c'est près de 40% des fonctionnaires qui se disent contraints d'utiliser l'anglais dans leurs communications écrites avec les entreprises, donc en totale violation avec la loi. À Montréal, ça monte à 51%. En Outaouais, ça va jusqu'à 63%. Et là, je ne vous parle pas des contraintes linguistiques quant aux communications avec les usagers individuels, parce que là, on voit que dans l'île de Montréal, c'est le 3/4 des membres du personnel des ministères et organismes qui témoignent qu'ils doivent utiliser l'anglais dans leurs interactions orales, donc avec les usagers. À Laval, ça monte à 80,7%. En Outaouais, à 88%. Donc, fin de la parenthèse, juste pour vous dire que c'est pas, vous savez, c'est pas une lubie, là. Bon. Mm-hmm. Alors, donc ça, je vous parlais du Parti libéral, 1993, qui s'apporte littéralement cet aspect-là de la loi 101 originale. Et après ça, donc à la fin des années 90, il y a la commission Larose sur le français. Ça survient donc après le référendum volé de 1995. Donc, on veut se ressaisir à tout le moins sur le plan linguistique. Et
Oui,
la
oui.
commission Larose avait donc parfaitement raison de proposer au gouvernement Bouchard de revenir aux dispositions initiales de la loi 101 en matière de langue de l'administration. Et c'est ce qui va mener enfin en 2002 à l'adoption unanime, et je dis bien unanime, par l'Assemblée nationale de la loi 104. Donc c'était sous le gouvernement de Bernard Landry. Et le tout premier article de cette loi venait donc renforcer notre charte de la langue française en énonçant que, un peu comme, en fait, comme dans la version originale de la loi 101, eh bien, l'administration publique doit utiliser uniquement, donc on rajoute le mot uniquement, elle doit utiliser uniquement la langue officielle dans ses communications écrites avec les personnes morales établies au Québec et aussi avec les autres gouvernements.
Ouais. Et là, juste une petite parenthèse, Maxime, sur la loi 104. On l'a connue, cette loi-là, surtout pour le fait qu'elle bloquait une espèce de trou dans la loi. On l'appelait le trou des écoles passerelles. Hein? C'est ça.
Exactement.
Donc, on connaissait la loi 104 pour ça. On la connaissait moins pour son article 1 qui visait à renforcer le français dans l'administration.
Et oui, comme toute réforme de la Charte de langue française, hein, ça se veut tout le temps transversal, hein, puisque le dossier de la langue, c'est transversal. Et en effet, je dirais que peut-être le point le plus saillant de cette loi, c'était cette volonté de colmater la brèche qui permettait à des gens de s'acheter un droit de contourner les mesures scolaires de la loi 101. Et on se souviendra que dans ce dossier-là, eh bien, la Cour suprême a charcuté donc cette dimension. Elle a, au fond, annulé ce colmatage. Ça a été l'arrêt Nguyen à la fin des années 2000.
C'est l'arrêt sur le parcours authentique. Hein? Le poétique
exactement.
Parcours authentique.
Donc,
si,
on voit, hein,
si un jeune a un parcours authentique vers l'anglais, ben, laissons-le aller dans le système anglophone.
Eh bien, c'est jamais simple, comme on sait, ce beau combat linguistique.
Mais revenons à l'article 1, Maxime. Donc, vous, là, si je me souviens bien, vous êtes allé devant les tribunaux pour forcer l'État à appliquer sa propre loi?
Ben oui, hein, c'est assez scandaleux, hein, pour pas dire pire, que quand c'est rendu que des citoyens doivent saisir le pouvoir judiciaire pour forcer le pouvoir exécutif à honorer ses obligations élémentaires vis-à-vis des ordres que lui donne le pouvoir législatif. Hein. Eh bien, c'est ça qui s'est passé, puisque donc en 2002, au moment de l'adoption de la loi 104, il faut comprendre qu'on a confié la simple charge de fixer la date d'entrée en vigueur de cet article premier au gouvernement, au pouvoir exécutif. Or, pendant près de deux décennies, nos gouvernements successifs n'en ont rien fait. Et donc, l'article 1 de la loi 104 est demeuré lettre morte, ce qui pose un problème majeur, non seulement quant au respect du statut légal du français au Québec, mais plus fondamentalement encore quant au respect de la démocratie elle-même et de la souveraineté parlementaire. Puisqu'à quoi bon voter des lois si notre exécutif ne daigne même pas honorer son obligation élémentaire de les exécuter, pour emprunter un anglicisme au fond, au sens plus français du terme,
de les appliquer.
En effet, l'exécutif l'a exécuté. Ça s'étale.
Oui, c'est
cette
ça.
Volonté démocratique et parlementaire. Et donc, c'est un scandale. Et c'est pour ça que ce qu'on disait dans notre communiqué, c'est que, bon, oui, c'est mission accomplie, mais on va quand même pas se mettre à applaudir un gouvernement simplement parce qu'il honore son devoir le plus élémentaire au plan national, au plan démocratique, au plan constitutionnel.
Oui.
De mettre en vigueur des lois démocratiquement votées. Ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Et je faisais un peu l'analogie avec ce qui se passait au temps des patriotes, au temps de la colonie, où, vous savez, les gouverneurs anglais se fichaient bien des doléances exprimées par la Chambre d'Assemblée. Donc, vous savez, c'est pour ça que nos ancêtres se sont battus. Hein. C'était pour amener le gouvernement, le gouvernement responsable. Et
c'est
dans
ça.
Ce dossier-là, le gouvernement n'a pas été responsable.
Est-ce que c'est finalement le judiciaire qui a forcé le gouvernement à appliquer l'article 1 de la loi 104?
Alors, heureusement, on n'a pas eu à aller jusqu'ici. Puisque
Parce que
la
vous, votre requête était en mandamus. Moi, j'ai découvert le sens d'une requête en mandamus en suivant votre péripétie, vos péripéties devant les tribunaux, puis la loi 104. Mais
ah ben oui, on fait preuve de créativité, évidemment, dans ce genre d'aventure. Un mandamus, c'est une sorte d'injonction qui est destinée aux entités de droit public.
Mais c'est pas ça qui a fait que Simon-Jolin Barrette, là, le ministre actuel responsable de la langue française, applique l'article 1 de la loi 104.
Ben, c'est-à-dire, vous aurez compris que aux yeux de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui était la demanderesse dans ce dossier, qui l'est encore puisque la cause est toujours pendante.
OK, la cause est pendante. Okay.
Ah, ben, c'était une des mesures pour mettre la pression sur le gouvernement. Bon. Et puis, tant mieux si, au fond, tant mieux si on n'a pas à aller jusqu'au fond de ce dossier-là, puisqu'après tout, ça devient tellement ridicule que, au fond, le gouvernement du Québec, à travers son procureur général, se trouve à dépenser de l'argent public en honoraires d'avocat en raison de sa propre faute d'avoir négligé de mettre en vigueur depuis 20 ans un ordre du Parlement.
Mais
le ridicule, s'il tue pas, en tout cas,
il mine la crédibilité.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais comment ça va se passer, là, Maxime Laporte, l'application de cet article-là? Est-ce que ça va interdire, par exemple, à un ministre des Relations internationales d'écrire en anglais, mettons, à un secrétaire d'État américain?
Alors ça, c'est l'autre aspect de cette disposition. Alors, puis il faut, à mon avis, distinguer. Il y a la question de ne correspondre qu'en français avec les personnes morales, les entreprises incorporées établies au Québec. Ça, c'est une chose, et je pense que ça ne doit souffrir d'aucune exception. Pour ce qui est des communications avec les autres gouvernements qui n'auraient pas le français comme langue officielle, s'entend. En effet, quand on est un État, on s'exprime dans la langue de l'État. Mais en vertu des conventions non écrites internationales qui découlent des principes de diplomatie, on peut en effet assortir une telle communication de ce qu'on appelle une traduction de courtoisie. Donc, mm-hmm. Le gouvernement du Québec écrit, par exemple, au gouvernement des États-Unis à Washington. Donc, la seule langue officielle du Québec, c'est le français. Donc, la communication officielle doit être en français. La pratique diplomatique à l'international, c'est que, OK, on va assortir cette communication-là d'une traduction de courtoisie, mais qui ne va pas avoir un caractère officiel. Je pense que c'est un bon équilibre. On verra. Je ferai tout de même remarquer que le français est une grande langue internationale, une grande langue de diplomatie. Je pense qu'il faut tout mettre en œuvre mm-hmm. pour consolider ce statut. Vous savez, le français, c'est une langue qui est très importante
ben oui.
et qui est appelée même à être de plus en plus importante dans les relations internationales, surtout depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais ça, il faudrait que la République française et s'enlève les doigts du nez et veille à ce que, en effet, l'Union européenne ait pour langue officielle, peut-être même pour seule langue officielle, la langue française.
Autre exemple plus concret, vous parliez de Laval tout à l'heure, là, mettons un nouvel arrivant qui est ici depuis 5 ans, qui n'a pas appris le français, comme ça arrive bien souvent, mm-hmm. lui veut avoir de l'aide de l'État, que ce soit, je ne sais pas moi, de l'aide, puis il écrit à son député en anglais, puis il écrit à l'administration en anglais, puis de toute façon, il reçoit une facture d'Hydro-Québec en anglais, c'est que... ça, qu'est-ce que l'application... va changer, l'application de la loi 104 va changer?
Alors, évidemment, sans vouloir mélanger tout le monde, jusqu'à un certain point, c'est un autre dossier, même si, évidemment, il y a un lien de connexité direct. Donc, la langue de communication de l'administration publique avec les individus, les citoyens, c'est un autre chapitre.
OK.
Et à ce titre-là, bon, au Mouvement Québec-Français, on estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le principe du français, seule langue officielle, de l'État se traduisent en actes. Bon, et quitte à offrir des mesures d'accompagnement, d'interprétariat, etc., tout ce que vous voulez pour faciliter au fond l'intégration, puis au fond les services rendus aux allophones. Mais la loi 101, son principe fondamental, c'est que la seule langue officielle de l'État québécois, de l'administration publique, etc., c'est le français. Et il n'y a que quelques exceptions pour la communauté anglo-québécoise. Le problème, c'est que on assimile presque littéralement, en fait littéralement, mais bon, au sens aussi symbolique et administratif, on assimile les allophones qui baragouinent un peu plus l'anglais que le français momentanément à des anglophones, ce qui est fondamentalement problématique.
Oui.
Et la question de la langue des services publics à la population générale, aux individus, c'est un autre dossier. L'article 1 de la loi 104, ça concerne la langue de la correspondance écrite, imaginez-vous donc, avec de l'administration publique,
Donc,
avec les personnes morales établies au Québec.
Ma facture
d'Hydro-Québec
à, mettons, à une compagnie, ça serait un bon exemple où ça devrait être en français. Mettons à Google
là,
qui vient s'installer.
Vient
s'installer à Beauharnois là, sur des belles terres agricoles. Là, on y écrit comment là? On y écrit en français?
Je vais peut-être vous choquer encore plus, mais sauf erreur, les organismes indépendants comme Hydro-Québec, les sociétés d'État, je pense qu'elles ne sont pas couvertes par l'article 1 de la loi.
Bon.
Je peux juste vous dire à quel point, vous savez, on va de bataille en bataille, tant mieux si on gagne une bataille, mais vous savez, la loi 101, comme on dit souvent, c'est un fromage gruyère, et puis il faut vraiment veiller à ce que dans toutes ces dimensions, elles soient renforcées.
Ben
puisque,
oui.
Voilà, mais c'est sûr que moi, stratégiquement, ça a toujours été mon approche. Il faut, comme disait Sun Tzu, qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. Alors, c'est sûr qu'on se fixe des objectifs particuliers en fonction de batailles précises à mener et à gagner. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le dossier du français. Du reste, la réforme costaud à laquelle
le
ministre Jolin Barrette nous dit travailler, bien sûr, doit embrasser l'ensemble de la situation et générer de l'avancement dans tous les aspects du dossier linguistique, hein, vous l'aurez bien compris.
En tout cas, c'est ce qu'on va voir bientôt. Je pense que la réforme costaude, selon la manière dont on la qualifie déjà, ça s'en vient. Là. Le premier ministre a dit qu'il y avait une date même. Il a dit ça en chambre la semaine passée. Merci beaucoup, puis on s'en reparlera à ce moment-là, si vous le voulez bien. Maxime.
Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu.
C'était Maxime Laporte, le président du Mouvement Québec français.